Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
Aujourd'hui, hein, on parle de féminisme, on vit dans une culture qui est hyper misogyne. Et par définition, en fait, l'homme est conquérant, il va vers l'extérieur, il a une vie qui pénètre. Et la femme, en fait, reste au foyer, elle est à l'intérieur et elle se fait pénétrer. Donc en fait, les rôles, ils sont clairement identifiés dès le début. Et un homme qui est pénétré... c'est un sous-homme qui du coup est féminé parce qu'il a le rôle de la femme, il est plus vulnérable et donc c'est forcément un PD entre guillemets.
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Gravereau. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Je t'ai proposé de participer à cet épisode car tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Pourvu qu'il soit dur, chronique sur ma masculinité » aux éditions Albin Michel. Et avant qu'on parle beaucoup de ce livre et de toute ta production artistique, on va se présenter. Donc comme d'habitude, je commence. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro, j'ai 43 ans. Je suis une femme racisée d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je suis une femme valide. Ça veut dire que je ne suis pas encore en situation de handicap. En termes social, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire que je suis issue d'un milieu ouvrier, populaire. Et puis, par mon parcours, mes études et mes expériences professionnelles, je suis devenue une cadre dans la communication. Donc, je suis une CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure. Et enfin, parce qu'on est dans une période d'inflation à 5,6%, en tout cas en France, coucou à la francophonie, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, c'est un peu dur. Je précise aussi mon salaire, parce que parlons d'argent. De mon côté, je gagne plus de 2000 euros net par mois avant impôt, et ça me met dans la minorité de Français qui gagnent plus de 2000 euros net par mois pour les impôts. Bref, tout ça c'est sourcé, je vous mettrai tout ça en commentaire. C'est l'Observatoire des inégalités. En France, il y a une majorité de gens qui gagnent moins de 2000 euros, il faut que vous soyez conscients. Si vous êtes au-dessus, vous êtes privilégié. Assumez-le, comme je le fais dans cette introduction. Voilà, c'est déjà assez complexe tout ça, donc si tu veux faire autant, tu peux, sinon tu peux réduire le canevas. Hein.
Bah écoute, moi je m'appelle Thomas, j'ai la trentaine, je suis blanc, valide, cisgenre, homosexuel et je suis mince aussi. Enfin, je suis pas gaulé comme la société voudrait, mais en tout cas je suis mince, donc je coche beaucoup de privilèges. Et puis moi du coup je suis pas cadre, je suis auto-entrepreneur entre guillemets. Je fais de l'illustration, mon métier. Alors après je sais pas forcément dessiner à la main sur une feuille, c'est un peu mon complexe, mais je fais tout sur ordinateur, mais en tout cas, je me vends comme illustrateur.
Très bien. Justement, tu as un site où tu vends des illustrations qui peuvent être sous différents formats sur un e-shop. Et il est précisé aussi que tu vends ça dans des concept stores également. On peut te trouver en magasin, en fait.
Ouais, exactement. En fait, sur mon e-shop, je vends... donc c'est ce qu'on appelle des art prints, c'est des affiches sur un papier qui est assez qualitatif, que je signe à la main, un par un. Donc c'est du format A3, du A4, et ensuite toutes mes illustrations, je les décline aussi en papeterie, c'est des cartes postales, des notebooks, des accessoires comme des éventails. Et j'ai quelques revendeurs, enfin des boutiques qui me revendent en Europe, et plutôt en France. Donc voilà, ça me permet aussi de visibiliser le sujet de mon travail, à savoir la diversité des corps, des amours, des représentations de l'amour avec un grand A. C'est plutôt bien pour que les gens puissent trouver de la déco qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs et qu'ils puissent trouver quelque chose qui leur ressemble et qu'ils puissent le mettre chez eux.
Est-ce que tu pourrais qualifier ton travail de, évidemment artistique, mais militant également ?
Quand j'ai eu des choses à mon sujet, on a souvent dit que j'étais un artiste engagé. On peut dire que je suis militant. Après, c'est vrai que le militantisme, ce n'est pas un gros mot, moi j'en ai pas peur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le militantisme, je pense qu'il se fait beaucoup sur le terrain. Alors je le fais en association, je le fais pas assez parce que j'arrive pas à me dégager assez de temps,
Oui, en fait, tu essayes de faire les choses à ton niveau. Chacun mène ses combats comme il peut. On ne cherche pas la perfection, personne ne l'est. Mais effectivement, bah, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien ton travail, mais je serais étonnée puisque tu es partout sur Instagram, que ça fait quand même quelques années déjà, allez voir donc, sur le site thomasgravereau.fr, je vous mettrai toutes les références. Il y a plein de choses, et là, j'y étais pas allée depuis quelques jours, je découvre qu'il y a des éventails. Non, mais tu as fait des éventails, quoi. Mais c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Il nous faut ça, des éventails jolis, oui, avec un message. Il faut ça pour l'été, quoi.
Exactement. J'ai fait deux éventails il y a un an et là, dans quelques jours, je vais en sortir quatre nouveaux modèles avec du coup, bah, toujours cette diversité d'accords qui est mise en avant.
Ok, bah écoute, on a hâte parce que les jours de canicule vont approcher, donc c'est aussi un bon moyen de visibiliser ton travail et puis bah, ces causes-là qui nous intéressent, donc ils sont à la fois le sujet de mettre toutes les formes d'amour, y compris bien sûr LGBT, et aussi toutes les formes de corps. Donc il n'y a pas beaucoup d'illustrations, ça commence à se faire, mais des produits avec des où on voit des femmes grosses, bah il n'y en a pas tant que ça en fait, donc bah, c'est bien que tu puisses proposer ça aussi. On va parler un peu largement de ton livre, comme d'habitude. Qu'est-ce qui t'a donné aussi de faire ce livre et comment t'es arrivé à contacter les éditeurs et à concrétiser ce projet?
En fait, au tout début, l'idée de faire un livre, c'était un peu un rêve parce que j'aime beaucoup lire depuis un peu moins de 10 ans. Donc, c'était un rêve de faire un livre et de l'illustrer. C'est une idée que j'avais et puis, en fait, je ne savais pas en fait sur quoi le faire. Et un jour, donc il y a un peu plus de 3 ans, j'ai écouté un épisode des Couilles sur la table, un podcast que j'aime beaucoup. Et cet épisode était tout sur la bite. Donc, c'était vraiment un épisode sur le pénis. Et au fur et à mesure que j'écoutais le podcast, je me suis rendu compte que bah, ça faisait une trentaine d'années que j'avais un pénis entre les jambes, que je touchais tous les jours, j'utilisais tous les jours. Mais en fait, je savais très peu de choses à ce sujet, alors que j'avais l'impression qu'on faisait allusion au pénis tout le temps, dans toutes les discussions, toutes les fictions que je pouvais voir sur Netflix, dans les films, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire pédagogique sur le pénis. Et en fait, j'ai vendu l'idée à Albin Michel de faire un roman graphique, une petite BD avec plein de pénis entre eux pour faire un outil pédagogique sur le pénis et avoir en parallèle en fait un manifeste sur les masculinités et un petit peu donc avec des idées pro-féministes. Albin Michel a signé du coup ce projet-là et il se trouve qu'au bout de plusieurs mois de recherche où j'ai lu, vu, entendu beaucoup de choses sur le pénis, j'ai fait ce que j'appelle dans le livre une crise de bitlémie, c'est qu'en gros trop de bites tue la bite. Mm-hmm. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma tasse de thé, c'était trop technique, trop scientifique, ça m'intéressait pas. Parce que franchement, lire des livres d'urologues, il faut se taper, hein. C'est un gros sujet, c'est pas du tout passionnant. Et puis dans tout ce que je trouvais, je me rendais compte que plein de sources, même des urologues en fait, se contredisaient. Et que si je voulais vraiment faire en fait cet ouvrage-là, je devrais faire un vrai travail, enfin une vraie enquête journalistique, qui n'est pas mon métier et qui n'était pas du tout mon envie. Donc en fait, j'ai retourné le truc où je me suis dit que j'allais plutôt faire un livre sur la masculinité, enfin les masculinités, avec le pénis en fil rouge, parce qu'aujourd'hui, si la bite ne fait pas le moine, la bite fait l'homme, et c'est tout le problème en tout cas du patriarcat que je surnomme bitriarcat dans le livre.
Oui, j'ai vu que ce terme, je pense qu'il ferait un très bon mot sur un t-shirt ou sur d'autres productions, pourquoi pas, que tu pourrais proposer. Il y avait aussi Bictature. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'était important pour toi de reprendre le terme patriarcat et de jouer avec? Parce qu'effectivement, ben, c'est un peu en filigrane dans tout le livre, mais c'est fou que ce pénis soit partout, tout le temps, même dans le langage, ou c'est un des premiers dessins que les enfants apprennent à faire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est partout comme ça?
On est toujours réduit à nos organes génitaux, hein. C'est ce qu'on vit dans notre société binaire où en fait dès qu'un enfant naît, on va en fait lui assigner un genre par rapport à ses organes génitaux. Et aujourd'hui, le patriarcat fait que bah il y a des inégalités entre les hommes et les femmes et que bah, les hommes sont le sexe fort, le sexe dur, et les femmes sont le sexe vulnérable et le sexe doux entre guillemets. Après voilà, j'en parle en tout livre parce que c'est vraiment en fil rouge et on peut voir que le pénis est partout. Aussi bien dans les représentations en fait, qu'on peut donner de l'homme pour vendre un gel douche, que dans les vêtements ou les sous-vêtements, que dans le langage militaire, le jargon militaire et tout le langage qu'on a aujourd'hui. Donc je trouvais que c'était intéressant de parler de dictature. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle aussi beaucoup de phallocratie, mais je voulais aussi faire un livre qui soit très vulgarisateur et très accessible pour des personnes qui n'y connaissent rien du tout au féminisme ou à l'homophobie, ou des personnes qui n'aiment pas forcément lire. C'était vraiment en fait mon goal de rendre un discours accessible et le rendre aussi assez dynamique, avec un peu d'humour par-ci, un peu d'émotion par-là, mais en tout cas, faire quelque chose qui soit good mood et assez vivant et assez rythmé au fur et à mesure des chroniques.
Oui, ça peut se lire très facilement. Effectivement, on peut aussi choisir un chapitre plutôt qu'un autre. J'avais envie aussi de te faire réagir sur le sujet de la virilité, parce qu'on voit bien que ce mot-là de virilité et ses conséquences, dès l'enfance, on va essayer de tout faire pour que un petit garçon se comporte ceci, une petite fille comme cela. Et toi, on sent que c'est quelque chose où tu n'étais pas forcément à l'aise, tu suivais un peu le mouvement, mais tu t'interrogeais quand même sur ce sujet de la masculinité par la virilité.
Exactement. En fait, dès qu'on est enfant, on met toujours un rapport de domination dès le plus jeune âge. En fait, on va dire un petit garçon, déjà, en fait, on va penser qu'il est hétérosexuel. Donc, on va dire un garçon, est-ce que tu as une petite copine? Donc, c'est la petite copine, c'est pas un chéri, c'est une petite chérie, par exemple. Il y a toujours ce rapport, en fait, de domination. Et puis, on va dire à un petit garçon qu'il va être un bourré des cœurs, qu'il va les faire flancher, qu'il va les mettre à genoux, qu'il va leur briser le cœur. Donc, tout un langage qui commence à mettre en avant une violence masculine. Et ensuite, après, dans tout ce qui est cours de récré, ou en tout cas jeu, même à la maison, je ne parle pas forcément en fait, des jeux vidéo, hein, je parle des jeux, donc ça peut être un déguisement de pirate, de cow-boy ou de policier, où en fait, forcément, on va avoir des armes factices en plastique pour jouer avec. On va avoir une violence qui se met toujours au fur et à mesure. Et puis, en contrepartie, les filles, en tout cas à mon époque, ça allait être un peu moins aujourd'hui, mais les filles, à l'époque... Elle jouait à la maman, en tout cas, elle jouait à la femme au foyer qui faisait du coup les courses, à manger, etc. Ou elle était la princesse, quoi. Donc, il y avait vraiment ce décalage que je pouvais ressentir. J'ai une sœur qui a 3 ans plus que moi. Et c'est vrai qu'en tout cas, quand j'étais petit, mine de rien, le fait d'avoir une sœur, ça m'a aussi permis de pouvoir goûter au truc de fille et en fait de pouvoir faire tout ce que je voulais sans forcément qu'on me dise que j'étais pas un garçon comme les autres, entre guillemets.
Oui, puis il y avait aussi ce sujet de, tu disais, de gommer toute trace jugée trop efféminée, qui avait vraiment ce côté, il faut faire attention à la démarche, qu'est-ce que c'est qu'une démarche masculine, qu'est-ce que c'est qu'une démarche féminine, ça c'est venu assez tôt, semble-t-il, dans ton parcours.
Oui, c'est venu très tôt, parce qu'en fait, c'est aussi bien en fait, dans les repas de famille que quand tu es devant la télé ou dans la cour de récré, tu te rends compte qu'être un homme, c'est pas faire sa fiole ni passer pour une baltringue. Dès le plus jeune âge, en fait, t'entends des pédés par-ci, tapettes par-là, fais pas ta fifi, fais pas ta femme nette. Et tu te rends compte qu'être un homme, en fait, c'est vraiment être à l'opposé d'une femme. Même si tu ne connais pas la virilité, t'apprends en tout cas à jouer ou à performer une virilité. Et moi, je savais que j'étais un peu féminin dans ma manière de parler, de poser, etc. Ce qui me sauvait, c'est que comme j'étais toujours le plus petit de ma classe, j'étais toujours le chouchou aussi bien des instits que des autres élèves. Donc, on prenait plutôt soin de moi parce qu'on pensait que j'avais besoin d'une attention particulière parce que tout ce qui est petit est mignon. Donc, j'étais quand même assez chouchouté par mon entourage, mais je voyais en tout cas que j'étais pas un vrai mec. J'étais pas du coup un caïd dans la cour de récré, mais j'étais pas, tu vois, ces garçons, on disait, tiens, ça c'est un garçon.
Ouais, donc ça c'est déjà une pression.
Ouais.
Être toujours dans les clous de, il faudrait pas qu'on puisse s'interroger sur ma sexualité, puisque on va rappeler aussi ton âge, on n'est pas à cette époque-là dans l'ouverture, mais on peut être toute orientation sexuelle, c'est ok. Et encore aujourd'hui en 2023, même à Paris, je fais un grand coucou aux auditeurs qui m'ont envoyé des messages, notamment un qui habite dans le Var et qui me disait que être gay dans le Var, même en 2023, non, en fait, c'est pas si facile que ça et c'est pas quelque chose qui pouvait vivre de la même manière que peut-être dans d'autres régions. Mmh. Et on sent que même à l'époque, on n'avait pas cette déconstruction, puis ensuite on a eu la manif pour tous, mais on va y revenir, c'est un problème de paraître autre chose que forcément hétéro.
En tout cas, de ne pas rentrer dans le carcan qui est schématisé par l'hétérosexualité, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'on résume toujours un mec efféminé à l'homosexualité, mais en fait, ça ne veut rien dire.
Ah oui.
Enfin, un mec efféminé, entre guillemets, enfin, j'aime pas ce mot, mais aujourd'hui, enfin, pour qu'on se comprenne, je parle d'efféminé, mais en fait, un mec efféminé peut être hétéro. Enfin,
bien sûr.
L'apparence n'a absolument pas du tout de vérité, en tout cas, sur l'orientation sexuelle ou l'identité, en fait, de genre ou sexuelle d'une personne. Donc, c'est toujours le nerf de la guerre. Et c'est vrai que mon témoignage d'enfance, c'était dans les années 90 et au début des années 2000. Là, j'ai 34 ans. Mais encore aujourd'hui, même si on parle beaucoup plus d'orientation sexuelle différente, de genre, etc., aujourd'hui, 2023, la France, que ce soit Paris ou des petites villes, la France est un pays homophobe avec une homophobie intégrée qui résiste énormément. Et il n'est pas du tout safe d'être homo aujourd'hui dans notre pays.
Oui, et puis là, on vient de fêter les 10 ans du mariage pour tous et toutes. Et on voit que ça fait énormément de mal. Il y a plein de ressources sur le sujet. Tu en cites, mais j'en mettrai aussi en référence. On a beaucoup pensé aux personnes qui ont grandi dans ces familles-là, qui étaient très cathos ou en tout cas très anti-LGBT. Et dedans, il y avait des enfants qui ont vécu là-dedans et qui ne savaient pas encore potentiellement quelle était leur orientation sexuelle, mais qui ont grandi dans la détestation de cette potentialité.
Exactement.
Et c'est pour ça que c'était important que les LGBT aussi, et les militants en général, manifestent. Et moi, j'avais vu des pancartes qui disaient « on défile pour vos enfants ». Parce que vous êtes en train de fabriquer quelque chose d'horrible. Vous allez apprendre à détester l'autre et à se détester soi, parce que bah, si on grandit dans ce modèle-là, on ne peut être que hétéro, parce que sinon, bah, on va être rejeté par sa famille. Et il y a un podcast sur le sujet, d'ailleurs, je vous remettrai les références, là, j'ai plus le titre en tête, mais où, effectivement, bah, on va à la rencontre d'un homme qui a grandi dans une famille très catho, qui a fait les manifs pour tous, et qui s'est avéré être un homme homosexuel, et que bah, ça a été la rupture, et très compliqué, quoi. Donc, je pense qu'on... La France ne se remet pas encore de la violence qui est sortie de toutes parts, dans toutes les rues de France et de Navarre à l'époque, et on va le payer encore longtemps, je pense, cette phase. Et je pense que t'en as parlé aussi dans le livre. Toi, tu l'as vécu comment, cette période ?
En fait, j'ai vécu mal, alors que j'avais, enfin, à cette époque, en 2013, j'y vais à Paris, j'avais un taf, j'étais jeune adulte, enfin, j'avais un CDI, tout ça, donc j'avais aussi un mec, donc tout se passait bien, j'avais un super entourage amical, et ma famille, mes amis, et au taf... J'avais la chance d'avoir un entourage qui était présent, mais je pense qu'il n'avait pas assez conscience de l'horreur en fait, qu'on pouvait vivre avec la manif pour tous. Mais c'était assez violent pour moi. En fait, à l'époque, je vivais à Paris et en fait, il n'y a pas un seul jour où je ne voyais pas une représentation de la manif pour tous. Mmh. Que ce soit un sticker qui était collé sur les poteaux, des graffitis qui faisaient sur le sol, en fait, il y en avait partout. Enfin, en plus, avec des messages totalement débiles ou des gens en fait, qui te donnaient des flyers à la sortie du métro, mais c'était infernal, quoi. Tous les jours, tu pensais à la manif pour tous et tu étais ramené en fait, à te dire « Ok, d'accord, il y a des gens qui ne veulent pas que je me marie, qui pensent que je suis un sous-homme, un sous-citoyen et que je suis une grosse merde. » Donc, c'était hyper violent. Et encore une fois, j'étais quand même assez préservé de par la ville où je vivais et l'entourage que j'avais. Mais c'était très, très dur. Et c'est vrai que la manif pour tous a fait beaucoup de mal aux personnes LGBTQIA+, aux enfants qui ne le savaient pas, mais aussi en fait, aux entourages des personnes concernées. Parce qu'en fait... tout le monde, en fait, a entendu des horreurs. Ma mère est catho pratiquante et je sais qu'elle a rompu pas mal de liens avec des gens de sa paroisse avec qui elle s'entendait bien parce qu'en fait, elle entendait des choses dégueulasses, quoi.
Je pense qu'on va encore avoir quelques conséquences, mais entre guillemets, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter et que, notamment au niveau médiatique, il y a certains médias qui ont peut-être pris un peu plus leur responsabilité en disant bon, on va arrêter de leur donner la parole tout le temps, en fait, ces gens-là. Puisque si on prend vraiment les sondages d'opinion de l'époque, il y avait énormément de gens qui disaient mais non, mais nous, on est OK, en fait, avec le mariage pour tous. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec vos manifs ? Ce n'est qu'une minorité de gens, mais qui est très visible, en fait, qui prône la haine. Et bah, pourquoi ? Puisque ces gens sont une minorité et que la majorité et que la loi est en train d'être votée, pourquoi on nous met uniquement un point de vue qui est négatif tout le temps à la télé ? Bah on l'a compris, parce que ça fait de l'audience. Voilà.
Ça fait de l'audience. Et en plus, à l'époque, il y avait Frigide Barjot,
voilà.
Une nana détestable que je surnomme Monstre hein, dans le livre, parce que cette femme est un monstre. Elle a été un monstre, elle est encore. Elle a fait grandir du coup ce monstre de la manif pour tous avec son image de catho cool et décoincé. Mais je trouve, tu vois, que par rapport aux 10 ans du mariage pour tous, beaucoup de politiques se sont félicités du mariage pour tous, alors que plein d'entre eux, quand même, avaient fait la manif pour tous, tu vois. Hein, ils avaient défilé contre le mariage, tout ça, donc grosse hypocrisie. Et puis, mine de rien, aujourd'hui, tu as le Front National et puis d'autres petits partis qui parlent de faire un parti contre le lobby LGBT. Oui. Mais en fait, aucun média ne fait écho à ce sujet-là. Donc, manif pour tous disant « Ok, mais en fait, aujourd'hui, 2023, on en est où ?» En fait, il y a des politiques qui vont, encore une fois, s'en prendre aux LGBT, notamment aux personnes trans, qui s'en prennent toujours plein la gueule en ce moment et qui vivent une violence énorme. Mais en fait, aujourd'hui, les médias, avec tout ce qu'on a pu vivre, ils ne savent pas s'y prendre, quoi. Ils ne savent pas vraiment, je trouve, calibrer les sujets, tu vois, d'une manière plus large. Parce que manif pour tous, aujourd'hui, il faut parler, en fait, de la communauté LGBT. Et puis, la manif pour tous se surnomme le syndicat de la famille.
Ah oui.
Franchement, ce surnom est absolument dégueulasse. Il y a plein de médias qui ont dit, hein, tiens, aujourd'hui, manif pour tous devient le syndicat de la famille. Mais je n'ai vu aucun média qui a dit pourquoi, en fait, ils veulent s'appeler comme ça. Parce que syndicat de la famille, c'est quand même super fort. Un syndicat, c'est un groupe, en tout cas, qui va dire, tiens, on va défendre tous les salariés, quels qu'ils, elles soient. Et là, en fait, syndicat de la famille, c'est juste syndicat d'une famille qui est en fait la famille hétérosexuelle. Donc c'est un truc qui est absolument aberrant et dégueulasse, mais personne n'en parle.
Oui, alors ça, c'est bien que tu puisses l'évoquer. Après, c'est vrai que dans les médias, là, on dit les médias, mais il y a plusieurs types de médias. Donc après, c'est à vous, auditeurs, auditrices, de choisir les médias que vous souhaitez regarder. Malheureusement, on sait qu'on va avoir des chaînes comme BFM TV et autres qui ne vont pas aller dans le fond, dans le sujet. Ils vont zapper. C'est des chaînes d'infos en continu. Je vous mettrai les références d'un podcast avec Pierre Lescure, qui est un homme de médias assez connu et qui précise qu'on est le seul pays en Europe à avoir 4 chaînes d'infos en continu. C'est trop, c'est au moins 2 de trop. Et donc, ils se tirent la bourre chacun au scoop, à l'information non vérifiée, à qu'est-ce qui va pouvoir choquer le plus pour que les gens restent un petit peu captifs pendant 2-3 minutes d'attention, au détriment du fond et du vrai débat. Moi, j'irais plutôt vers des débats un peu plus sereins, comme l'émission C'est ce soir sur France 5, où on prend le temps, chacun peut exposer ses arguments. Il y a une diversité, justement, des opinions et des arguments, et la qualité surtout des invités, où on va avoir des sociologues, des chercheurs, des gens dont c'est le travail de creuser, et pas des autoproclamés experts type Pascal Pro, café du commerce, quoi. Où là, je vois pas bien ce qu'il va pouvoir nous apporter, mais voilà, il faut choisir ce qu'on a envie de creuser, et malheureusement, BFM et autres, c'est pas là qu'on va avoir de l'information vérifiée et qualitative sur un sujet tel que l'LGBT. Mmh. Et je vous mettrai aussi des références sur le wokisme, qui serait le prochain danger du RN notamment, et vous rendez compte, la France devient wokiste. Mmh. Y aurait beaucoup de choses à dire. Je voudrais qu'on revienne aussi sur quelque chose qui me semble assez symptomatique de notre période et du patriarcat ou bitriarcat. Il y a une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'homme pénétré de Martin Pie et Zoé Redondo. Donc L'homme pénétré, repenser notre intimité, édition La Boîte à Bulles. Et ça partait d'un constat assez simple. En 2019, il y a une étude qui a précisé qu'un homme hétéro sur deux s'était fait pénétrer par une partenaire féminine. Donc je répète, un homme hétéro sur deux. Donc il y en a forcément autour de vous. Mais seuls 4% de ces hommes-là serait d'accord pour en parler publiquement. Et là, il y a un sujet. Ce qui veut dire que, bon, après, il faudrait lire la BD, mais en gros, il y a ce sujet de si on est pénétré, on est forcément une femme ou on est forcément un homme homosexuel.
Un gay. Ouais.
Voilà. Mais sinon, si on a un homme hétéro qui se fait pénétrer par une femme ou autre, c'est pas possible, en fait. Il faut le cacher. Et donc, il y a un sujet avec l'anus. De toute façon, tu en parles dans le livre, mais... Mmh. Comment c'est possible, selon toi, qu'en 2023, on en soit encore là ? Est-ce que des hommes hétéros ne soient pas en capacité de parler, ne serait-ce qu'à leurs amis, hein, leurs meilleurs amis ? Ils n'en parleront pas par quoi ? Par honte ? Par peur ?
J'ai pas lu la bande dessinée de Martin Pie, qui a l'air très bien. J'avais juste vu, en fait, son passage sur Combini,
oui,
où il s'était fait mais défoncer en commentaire par des gros débiles, quoi. Et je m'étais dit, mais la France en 2023, c'est quand même très, très triste. En fait, aujourd'hui, hein, on parle de féminisme, on vit dans une culture qui est hyper misogyne. Et par définition, en fait, l'homme est conquérant, il va vers l'extérieur, il a une bite, il pénètre. Et la femme, en fait, reste au foyer, elle est à l'intérieur et elle se fait pénétrer. Donc, en fait, les rôles, ils sont clairement identifiés dès le début. Et un homme qui est pénétré, c'est un sous-homme qui, du coup, est efféminé parce qu'il a le rôle de la femme, il est plus vulnérable. Et donc, c'est forcément un PD, entre guillemets. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de gênes sur le sujet. L'entourage que j'ai pu faire aujourd'hui est pratiquement 100% hétéro. Et c'est des mecs qui sont très ouverts d'esprit. Et je suis hyper surpris, du coup, d'avoir autant de richesse de masculinité autour de moi. Et en tout cas, c'est un sujet dont on parle sans tabou. Et c'est même eux, en fait, qui amènent souvent le sujet sur la sodomie. Et je suis assez étonné, en fait, de ça. Donc, je pense que ça dépend en tout cas des lieux d'habitat, des cultures de chacun, mais en tout cas, en tant qu'expat, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est, je pense, privilégié parce que c'est des personnes qui ont pu partir, voir d'autres cultures, d'autres civilisations, rencontrer beaucoup de gens et puis être beaucoup plus libérés, évoluer sur certains sujets. Donc aujourd'hui, dans ma sphère privée, je sais qu'il n'y a pas de tabou autour de ça chez les hommes qui m'entourent, qu'ils soient hétéros ou homos. En fait, même, tu vois, j'ai l'impression dans l'entourage que c'est plus honteux pour un pote gay de dire qu'il n'aime pas la sodomie, mmh, que pour un pote hétéro qui va me dire « j'aimerais bien en fait, qu'elle tente de me pénétrer ».
Les gens vont souvent faire l'amalgame entre les deux, que quand on est un homme homosexuel, forcément on doit aimer être pénétré au niveau anal. Non, en fait, moi j'en connais plusieurs, pour plein de raisons différentes, ils vont pas forcément aimer ça parce que ils se sont aussi confronté à leur corps, en fait. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il faut déjà commencer par là, la masturbation et autres, et de dire, bon, bah, peut-être je vais essayer avec un ustensile, un truc, un sextoy, qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens. Tu sens si ça marche ou si ça ne marche pas, et puis peut-être avec un partenaire, ça peut fonctionner ou pas. Ça dépend aussi de la chimie des corps, les corps se parlent ou ne se parlent pas. Mais ce n'est pas une obligation. De même que, je rappelle aux femmes hétéros, il n'y a pas d'obligation à ce que vous acceptiez la sodomie non plus. Hein. Ça, c'est un truc de diktat de magazine féminin contre lesquels je lutte depuis un petit moment. Moi, je fais partie peut-être des rares femmes, me semble-t-il, qui sont complètement à l'aise avec le fait que j'ai 43 ans. Et aujourd'hui, la sodomie, c'est quelque chose que je ne pratique pas. J'ai plus ou moins tenté, il a mis un bout de gland et ça s'est arrêté tout de suite. Et c'est OK, et c'est pas grave.
Mais c'est clair.
Et c'est pas pour autant que je suis pas complète ou que je suis frustrée ou que... Mais tu pourrais lui faire plaisir. Non, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je souhaite aux femmes de ne plus accepter... peut-être des choses qu'elles n'ont pas vraiment envie de faire juste pour faire plaisir ou par peur d'être rejetées. Et inversement, moi, j'ai un peu plus d'hommes hétéros, notamment parmi mes partenaires ou anciens partenaires. Et la stat des 1 sur 2, j'avais fait un calcul à un moment donné. Bon, c'était une phase de ma vie, mais je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Quasiment tous mes amants hétéros, donc, ils me demandent tous hein, de les doigter, de les pénétrer, et éventuellement pour certains avec des objets. Et je leur ai posé la question, mais c'est super que tu sois si ouvert sur le sujet, t'en as parlé à tes potes, mais ça va pas, non ? Mais pourquoi ? Puisque tu m'en parles à moi et que tu peux en parler à d'autres amantes. Oui, mais dans le cadre intime, il n'y a pas de souci. Ou dans le cadre d'une conversation un peu politique, je pourrais dire que voilà, il n'y a pas de souci. Mais de dire que moi, je le fais, que je le pratique, que c'est super j'aurais l'impression d'en faire la promotion, d'en faire la pub autour de moi. Je me dis, non, mais il y a une marge là, entre dire que vas-y, il faut le faire. Et en fait, tous, sans exception, alors qu'ils sont bien dans leur peau, dans leur vie, dans leur sexualité, ils sont tous dans ce cas-là de non, moi je ne pourrais pas en parler, y compris à des amis proches, parce que je sais trop ce qu'on va me dire et je ne suis pas prêt à prendre cette charge mentale de militant. Voilà, donc je ne ferai pas ce choix. Et je trouve ça dommage parce que c'était des âges charnières, un peu, des gens qui sont trentenaires, cadras, quinquas. Le pire, c'est pour les quinquas, parce que tu dis, putain, t'arrives à une assise quand même, à la cinquantaine, et t'en es encore à ne pas pouvoir l'exprimer. C'est peut-être un choix de... Non, mais voilà, moi, le militantisme auprès des amis sur ce sujet-là, non, en fait, c'est trop intime. Voilà, ça revenait beaucoup. C'est trop intime, mais l'intime est politique, donc il faut en parler.
Exactement, et puis dans tous les cas, hein, c'est une homophobie qui est intégrée, qui est beaucoup trop forte. Aujourd'hui, il y a quand même une hypocrisie énorme par rapport à la sodomie, parce que bon nombre de mecs hétéros, en fait, veulent sodomiser leur copine, mais quand, en fait, ils voient deux mecs homo, ils vont se dire, ah ben tiens, c'est dégueulasse, parce qu'il y en a un des deux qui sont sodomisés, mais en fait, la sodomie ne pose pas de problème aux mecs hétéros quand c'est eux, en fait, qui peuvent pénétrer leur partenaire, parce qu'apparemment, les fesses sont plus étroites, etc., etc. Mais c'est une hypocrisie qui est énorme. Et puis, encore une fois, par rapport à la pénétration, qu'on soit un mec ou une femme, si on reste dans une vision très binaire, en fait, être pénétré ou pénétré, si on aime ou on n'aime pas ça, il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a pas de prérequis qui fait que tu as un problème si tu aimes pénétrer ou si tu n'aimes pas pénétrer. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et si on n'aime pas pénétrer en tant qu'homme, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je sais qu'il y a aussi un gros tabou chez les mecs qui n'aiment pas pénétrer, mais qui se forcent aussi à pénétrer leur partenaire, quelle que soit leur orientation sexuelle. Mais en tout cas, il y a beaucoup aussi de mecs qui se forcent à pénétrer alors qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne trouvent pas forcément de plaisir à pénétrer.
Ça oui, tu l'évoques dans le livre, on peut peut-être creuser un peu parce que je pense que c'est quasiment la principale injonction faite aux hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, c'est effectivement de bander. Bon, voilà, il faut bander, alors que c'est pas automatique, c'est pas une machine, c'est complètement relié au cerveau, aux émotions, à énormément de choses. Et bander parce qu'il faut pénétrer, parce qu'on ne peut pas trop pénétrer quand c'est mou, en fait, ou quand c'est en demi-molle. Là, on est sur la technique, mais ça va moins bien rentrer, ça va être plus compliqué. Et puis, on fera une parenthèse aussi sur l'usage du préservatif, hein, qui est très 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 recommandé. Pour certains, ça va être compliqué de retrouver cette bonne habitude-là dès lors que ils ont été en couple pendant très longtemps et qu'ils ont arrêté la capote. Et quand il faut reprendre, ils vont retrouver ces trucs de « Ah mais merde, je vais perdre ma bandaison avec la capote parce que j'ai plus l'habitude. » Donc il y a ce premier sujet de l'injonction à bander, l'injonction à pénétrer. Est-ce que tu vois quand même des hommes en souffrir et ne pas réussir à évoquer ce sujet avec leur partenaire ?
Non, dans mon entourage, non. Et puis déjà aussi, il faut rappeler que c'est pas parce que quelqu'un bande qu'il a forcément aussi envie derrière d'avoir un rapport sexuel. Hein. Il y a des érections qu'on ne contrôle pas, comme les érections matinales, où parfois c'est des stimuli qui font qu'on bande, mais on n'a pas forcément envie de passer, en tout cas, à l'action, d'avoir un moment sexuel qui suit. En tout cas, non, c'est vrai que moi, après, je me suis tapé quand même plus de 2 ans et demi à écrire sur la bite, et ça m'a beaucoup saoulé, et ce n'est pas un sujet à la base qui m'intéresse, parce que je vis très bien avec mon orientation sexuelle, ma sexualité et tout, enfin, avec les gens qui m'entourent et tout. Donc, j'ai pas fait un gros travail du coup de chercher ou vraiment de parler avec des mecs par rapport à ce qu'ils ressentaient sur leurs érections, etc. Dans tout mon travail, même sur mon Instagram, on peut voir des choses qui sont un peu coquines parce que j'ai jamais représenté l'amour un peu coquin. Mais à la base, moi, j'aime pas forcément le sexe. Hein. Je suis pas fan de sexe, donc c'est pas un sujet qui me passionne et qui m'intéresse.
Okay.
Par rapport à la sexualité des hommes, toutes les injonctions. Je les connais parce qu'on les entend et je pense qu'aujourd'hui encore, elles sont beaucoup trop présentes dans tous les sketchs humoristiques où c'est toujours les mêmes blagues qui viennent sur la bite pour bander, baiser, etc. Donc, on a tous les injonctions en nous, mais après, c'est des choses qui me dépassent et sur lesquelles je ne m'arrête pas vraiment.
Et sur la taille, parce que ça aussi, c'est encore une autre injonction et je ne vois pas comment on peut avoir une maîtrise sur le sujet. Ça aussi, tu en parles dans le livre. J'aime bien cette phrase, un seul centimètre vous manque et tout est décuplé.
Exactement.
Alors, il y a une vidéo qui est super, qu'il faudrait que je mette en commentaire, avec une fille qui a pris un truc pour mesurer, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce de rouleau, là. Et puis, elle dit, voilà, je vais vous montrer ce que c'est que 12 cm, 13, 15, 20. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, un vagin pour les personnes donc hétéros. Et en fait, vous n'avez pas besoin de nous dire que vous avez 22 cm. En fait, on s'en fout. Et puis, ça va nous faire mal. Mais ça, pour moi, c'est complètement lié au porno.
Ouais.
C'est parce qu'on n'a pas les mêmes représentations de corps. C'est filmé d'une certaine manière. Je pense aussi que le porno a eu des effets désastreux sur, justement, les masculinités.
Bah oui, le porno en tout cas a des effets désastreux sur le culte d'un certain corps et sur aussi en tout cas un comportement qui est dominant et assez violent. Après, je pense qu'il y a aussi toute une culture par rapport à la taille du pénis qui fait qu'aujourd'hui on estime que la taille du pénis c'est une unité de mesure en fait qui du coup plus t'as de centimètres et plus en fait tu vas être un vrai mec, tu vas donner plus de plaisir, tu vas faire plus jouir et tu seras un meilleur coup quoi. Alors que pas du tout. Et tu sais que tu parles de cette vidéo que j'avais vue aussi, qui est très très chouette. Mais aujourd'hui, là, un mec qui a soi-disant une petite bite, petite bite, c'est une insulte. Et en gros, avoir un petit pénis, ça déprécie la valeur d'un mec en termes de plaisir qu'il peut donner, ou en tout cas en termes de masculinité qu'il peut en tout cas vivre, ce qui est totalement aberrant. Dernièrement, j'étais au restaurant avec plein d'amis et plein de mecs de mes potes. Il y en a un, du coup, qui aime bien poser des questions comme ça pour mettre un peu d'ambiance dans le repas. Il disait, oui, du coup, est-ce que vous connaissez la taille moyenne d'un pénis? Tout le monde donnait des estimations. Moi, déjà, le sujet à la base, il me saoule. Pour avoir enquêté un peu sur ça, tu vois, parce qu'il a donné un chiffre qui n'était pas forcément bon, je lui dis, mais en fait, aujourd'hui, il faut savoir que tous les médias qui font des articles sur le sujet, ils s'appuient le plus souvent, en tout cas, d'études qui sont faites en autodéclaration, ce qui vont dire que les mecs, de base, ils vont forcément se donner 1 ou 2 centimètres de plus, tu vois, au-dessus, pour dire qu'ils ont une plus grosse queue quand ils répondaient des sondages. Donc déjà, à la base, on a des résultats qui sont faux, qui n'ont aucun rapport avec la bonne fonction d'un pénis, déjà pour uriner et ensuite pour procréer. Enfin, ça n'a aucun rapport. Tous les mecs étaient à fond dessus en mode oh, « je veux savoir où j'ai la bonne réponse ». Et moi, je leur ai dit « mais est-ce que vous connaissez en fait la taille moyenne de l'ouverture, en tout cas d'une vulve ?» Parce que du coup, en fait, vous parlez de bites, mais en fait, combien de centimètres de pénis tu peux rentrer, en tout cas, tu vois, dans un vagin ou dans un anus. Je n'avais pas trouvé, en fait, le résultat pour un anus parce que je voulais en parler dans le livre, mais je n'avais pas trouvé sur Internet et tout ça. Par contre, de ce que j'avais trouvé pour un vagin, on peut rentrer en général entre 8 et 9 centimètres.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus.
Ah, donc, du coup, tu vois, moi, je suis le mec qui n'a jamais pénétré une femme, mais en tout cas, je leur ai dit ça, entre 8 et 9 centimètres, et tous, ils m'ont dit, bah non, c'est pas possible. Alors que pourtant, tu vois, ils ont tous pénétré des meufs. C'est rigolo, en fait, de voir comme la taille, c'est vraiment en fait une unité de mesure qui pourrit en fait beaucoup de choses, je trouve, aujourd'hui dans notre société. Et c'est ça aussi qui m'avait fait à moitié rire dernièrement quand il y avait eu, tu sais, l'histoire du tweet avec Greta Thunberg et Andrew Tate.
Ah oui.
smalldickenergy@getalife.com. Oui, c'est bien en fait de rembarrer un mascu de merde, mais au final, tu vois, on répondait à la misogynie. Et je sais que ce tweet, il a fait des records sur Twitter, mais en fait, on rigolait d'un mec parce qu'on avait traité d'énergie de petites bites, tu vois.
Oui, c'est ça.
Et on en est toujours là, en fait, aujourd'hui, même dans les sphères militantes engagées, parce qu'il y a plein de comptes féministes ou pro-LGBT que je suivais qui ont dit trop bien machin, qui ont parlé, mais en fait, on en est toujours là, même dans les sphères militantes, à se foutre de la gueule d'un mec parce qu'on a dit que c'était une petite bite. Et en gros, encore une fois, on est toujours en train de dire que la taille définit, en fait, la valeur d'un mec.
Ouais, on en revient à ce sujet de quand on est militant, bah on n'est pas à 100% parfait et on peut nous aussi répéter des trucs qui sont pas super, super cool, quoi.
Exactement.
Il y a toujours ces blagues-là qui continuent sur les micro-pénis. Il y avait un truc qui avait tourné avec Pierre Ninet et Jonathan Cohen où ils cherchaient des micros pour que chacun ait des micros pour s'exprimer. Et Pierre Ninet disait bah, un micro, t'en as déjà un dans ton slip. Et là, l'espèce de rire de la salle, je me suis dit, mais pff, ouais, ça, vous en êtes encore là, les gars, à faire des blagues sur le pénis. Et après, je pense que le sujet des micro-pénis, là, ça existe pour de vrai, où c'est juste quelques centimètres. Il y a des hommes qui souffrent énormément de ça. Alors que bah, quand on pose vraiment la question aux femmes qui ont des rapports avec des hommes, donc des femmes hétéros, est-ce que pour vous c'est super important la pénétration ou est-ce que vous pourriez vous en passer dès lors qu'il y a d'autres actions ça peut être doigté, ça peut être énormément de choses et il y en a plein. Moi je pensais que ce serait une minorité. Il y a énormément de femmes en fait, elles prennent plus de plaisir par d'autres pratiques que la pénétration. Donc si ces hommes-là qui ont un micro-pénis ou en tout cas un pénis qu'ils estiment trop petit savaient cette information ou s'intéressaient vraiment au plaisir de la femme dans un cadre hétéro, bah, il n'y aurait plus de sujet. Quoi. En fait, je vais réussir à lui donner du plaisir autrement, il n'y a pas de souci.
Ah, mais la pénétration, c'est une des plus grosses arnaques de notre monde. Elle est toujours sanctifiée, mais notamment tu vois, par rapport à l'hétérosexualité. Dernièrement, j'étais à un dîner, je ne connaissais pas forcément toutes les meufs, et en fait, j'étais allé à la contre-soirée dans la cuisine, et en fait, elle parlait de pénétration, de sexualité, parce que plusieurs d'entre elles venaient d'accoucher il y a quelques mois, et en fait, je me rendais compte que beaucoup d'entre elles se forçaient à avoir des rapports pénétratifs avec leur mec. Elles n'aimaient pas forcément ça de base. Après leur accouchement, tu vois, elles n'étaient pas forcément à l'aise avec leur nouveau corps, pas bien dans leur peau, et en fait, elles disaient que bah, se forcer, que parfois elles osaient dire non, mais qu'elles le vivaient mal, quoi. Et je me dis, mais on en est encore là avec du coup des personnes qui sont assez ouvertes, modernes, des personnes qui sont très privilégiées. Et tu te dis, mais on en est encore là, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que là, j'ai fini il y a 3 semaines le livre d'Ovidie, qui pour moi est révolutionnaire. Et c'est une grosse claque, je trouve qu'il est magistral. Et je pense que ça va être un des nouveaux grands livres du nouveau féminisme. Et j'en parle déjà autour de moi parce que franchement, je trouve qu'il va faire beaucoup, beaucoup de bien aux femmes déjà, pour qu'elles puissent verbaliser. Bah, le fait qu'elles aient du plaisir ou pas, qu'elles aiment ou pas, ou qu'elles parlent en tout cas de la sexualité hétéro. Et je pense qu'aussi, ça va libérer énormément la parole gay, parce qu'on va pouvoir aussi se dire qu'on n'aime pas forcément la pénétration. Enfin, en tout cas, tu vas parler de toute cette norme hétéro qu'on retrouve, nous, dans notre sexualité, qu'on soit hétéro ou pas. Je pense que c'est un livre qui va faire beaucoup, beaucoup de bien. J'ai adoré et je trouve qu'il résume très, très bien ma pensée sur le sujet.
Oui, donc ça s'appelle « La chair est triste, hélas ». Ça va être le nouveau King Kong théorie de dépense.
Grave.
C'est en train de tourner un peu dans tous les cercles féministes, mais pas que. Et je trouve bien aussi qu'il y ait beaucoup d'hommes qui le lisent. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas bien conscience de ce sujet de la sexualité et de la non-sexualité. Donc Ovidie, elle travaille dessus depuis plusieurs années. Et c'est bien qu'elle visibilise le fait que le sexe est omniprésent dans notre société. Et en fait, est-ce que vraiment c'est indispensable pour tout le monde ? Est-ce que c'est OK de ne pas avoir une sexualité active et de le vivre bien ? Parce que bah, ce n'est pas la priorité en fait, dans nos vies, forcément pas pour tout le monde. Et de dire, OK, je n'ai pas de sexualité, ou très peu, ou je me considère comme une personne mal baisée parce que je n'ai pas les bons partenaires qui n'écoutent pas mon corps, et bah, je le dis, je l'affirme et je ne m'en cache pas comme si c'était un mal. Parce que, comme elle le dit, si toutes les personnes mal baisées se réunissaient, mais on serait une force politique énorme.
Ouais, et c'est ce que Ovidie dit, elle dit justement, je suis féministe parce que je suis mal baisée. Ce qui est très fort. Après, moi, j'aime beaucoup Ovidie, je trouve que tout ce qu'elle fait est génial et super, c'est quelque chose de très simple, accessible et j'aime beaucoup en tout cas cette grande dame. Pour moi, c'est un peu une queen, une nouvelle queen du féminisme et en tout cas, je suis absolument fan.
Bah, ça fait une bonne transition pour aller vers une autre femme de ta vie très importante. Ça m'a aussi beaucoup touchée dans ton livre. C'est moi, j'appellerais ça une ode à ta maman. Mmh. Il y a ce sujet de, parce que je l'ai beaucoup vu, quand un homme se révèle être homosexuel, on accuse tout de suite la maman.
Ouais. C'est toujours de sa faute parce qu'elle l'aurait élevé en fait comme une fille. Alors que moi, ça n'a pas été le cas. J'ai eu en fait des Lego, des Action Man, des Playmobil, etc. Après, j'ai pu jouer à la poupée, à la Barbie avec ma sœur. En tout cas, j'ai une éducation qui était comme assez genrée sur le côté t'es un garçon, donc tu fais comme ça. Mais j'ai pu quand même faire pas mal de choses grâce à ma sœur. Notamment, j'ai assisté à un cours de danse de ma sœur et du coup, j'ai commencé à faire de la danse comme ça en faisant avec ma sœur. Mais dans tous les cas, oui, il y a toujours cette différence où du coup, tiens, il est gay, c'est normal, il est proche de sa mère, ou en fait, elle est élevée comme une fille. Alors que, par exemple, quand Moi, du coup, j'avais un père qui était absent. Et c'est vrai que parfois, j'ai pu entendre, ah ben tiens, il est gay parce que bah, son père était absent, donc en fait, il cherche un réconfort masculin, etc. Par contre, on ne va pas accuser le père, on va juste dire que c'est l'absence du père qui fait que. Donc à chaque fois, c'est toujours la faute de la mère, et le père, bah, lui, c'est toujours, il est toujours tranquille, quoi. C'est jamais sa faute.
Mais du coup, on n'est pas obligé non plus d'aller chercher une explication forcément au fait qu'une personne se révèle être homosexuelle. Enfin, c'est pas comme s'il y avait un crime, quoi, et qu'il fallait chercher la cause du crime.
Je sais pas si encore aujourd'hui, que ce soit à la ville ou à la campagne, si les gens le disent encore, j'en sais rien. Moi, je l'entends plus, et c'est tant mieux.
Moi, je l'entends, mais je l'entends plutôt dans d'autres générations, des gens qui ont l'âge de tes parents ou des miens ou au-dessus.
Des seniors.
On en revient à la non-sexualité ou à la non-présentation d'un compagnon. Si on ne présente pas quelqu'un, eh ben c'est que c'est suspect, c'est bizarre. Donc on va aller creuser pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que tu as eu trop de frères et donc tu étais très masculine et donc il y a eu un impact, ben voilà, il y a toujours cette espèce d'explication. Qui n'en sont pas vraiment, qui sont des... Bon, j'appelle ça de la psychologie de comptoir, quoi.
C'est un monde débile, alors qu'en fait, si on arrêtait de se poser des questions et en fait de se dire, mais tu es comme tu es, faut toujours trouver des raisons, en fait, ou des arguments pour savoir pourquoi, mais en fait, ça sert à rien. Et c'est ce qui me fait péter un câble par rapport au monde dans lequel on vit, c'est que ce serait tellement simple, en fait, de juste se laisser être qui on est et sans se dire, ah, mais t'es comme ça, parce que, enfin, on s'en fout, quoi. Faut toujours, en fait, tout justifier, alors que... On aurait tellement à gagner à juste être tranquille, hein, comme on est, avec l'apparence qu'on a, se sentir qui on est.
Peut-être que ça avancera un peu plus avec les prochaines générations. Je commence à voir des familles qui sont quand même assez ouvertes sur le sujet, mais qui se disent « je ne sais pas du tout ce que mon enfant sera, il sera ce qu'il a envie d'être ou ce qu'il peut être ». Et puis ces familles-là font très attention à ne pas dire « t'as un petit amoureux, une petite amoureuse ». Elles disent rien en fait, elles ne proposent rien. Par contre, elles expliquent « ton parrain, ta marraine, elle est dans cette situation, lui il a un compagnon ». Et donc les enfants grandissent avec plein de modèles différents et s'interroge pas du tout sur c'est des familles différentes, non, c'est parrain, il est avec parrain numéro 2 et c'est super, et puis marraine, elle a pas de compagnon, elle a plusieurs compagnons, en fait c'est un peu compliqué, mais mais c'est pas grave, c'est plusieurs modèles, et comme ça ils vont pas arriver avec un schéma automatique comme tout le monde de une famille, un papa, une maman, c'est pas du tout ça. Donc j'espère que pour ces familles là et ces enfants là ces générations là on aura plus ces sujets-là, enfin, je l'espère.
J'espère aussi. Hein.
Et je voulais revenir sur ta maman, parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, parce que je me suis dit, mais... y a une filiation, parce que ça m'a fait penser vraiment à moi. Tu dis, avec ma sœur, on occupe une place dans la vie qui n'est pas censée être celle d'un enfant, une place dans la vie de la maman. Mais il est hors de question de la laisser tomber et de ne pas lui rendre l'appareil, qu'à son tour, elle ne manque de rien, ou en tout cas du moins possible. Et plus loin, tu précises, ma mère est le pilier de ma vie, mon repère, mon identité, ma mère est mon tout. Bon là, j'ai posé le livre, j'ai fait, ok, c'est super émouvant, mais en plus, moi, ça m'a parlé, et je me suis dit, mais on a le droit d'écrire ça, on a le droit de ne pas le vivre mal, de pas dire, oui, mais non, normalement, avec les parents, il faut qu'il y ait une distance, il faut qu'on soit l'enfant et pas plus que l'enfant. Des fois, l'enfant devient le parent de son parent, parce que on commence un peu à les aider, on devient des aidants, même au niveau médical, parfois. Toi, tu t'es senti complètement à l'aise de dire, mais je m'en fous, en fait, c'est ce que je ressens, je l'écris, et j'ai pas envie qu'on rentre non plus dans une analyse psychologique de, est-ce que le rapport que j'ai avec ma mère est totalement sain, totalement non névrosé, peut-être, et on s'en fout.
Je l'écris parce que déjà, je le ressens et j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, je l'écris et si ça dérange des gens, je m'en fous. Mais c'est aussi pour mettre en avant que, mine de rien, c'est aussi le patriarcat qui fait ça. Ma mère, elle a été mère au foyer parce qu'elle a grandi en campagne bordelaise. Et voilà, c'est une éducation qu'elle a reçue, une culture qu'elle a reçue. Et même si c'est pas du tout la vision que j'ai aujourd'hui, en tout cas, moi, d'une famille ou autre, en tout cas, elle a été mère au foyer, donc elle a toujours eu, en tout cas, un sens maternel très développé, et en fait, à partir du moment où elle a eu ma sœur et elle m'a eu moi, en fait, on a été toute sa vie, et en fait, elle a sacrifié sa vie pour nous deux, ce que je trouve déjà un peu bête, parce qu'elle s'est mise de côté pendant très très longtemps, et puis du coup, quand tu dis femme au foyer, ça veut dire que tu travailles gratuitement, et en fait, quand elle s'est séparée de mon père et que mon père est mort, elle s'est retrouvée sans rien du jour au lendemain, et elle a dû retourner travailler du coup dans le Caire. Donc, elle vit dans une précarité qui est assez forte. Du coup, toi, quand tu commences à être jeune actif, que tu commences à avoir un travail, etc., tu commences à comprendre en fait que ta maman va avoir besoin de toi parce que tu peux pas la laisser en fait à la rue ou dans la merde. C'est aussi un des résultats du patriarcat, c'est que le patriarcat rend les femmes précaires. Les enfants doivent aussi parfois endosser un rôle qui n'est pas le leur de devoir en fait s'occuper comme un parent de leurs parents. Mmh. Il y a des moments où tu peux dire c'est trop cool, il y a des moments où tu peux dire ah bah merde, parce que bah, forcément tu as la boule au ventre en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de, en tout cas, de se retrouver dans sa vie et d'être bien et de pouvoir en fait se satisfaire et vivre comme on veut, en tout cas aussi avoir les moyens que l'on veut. Et quand tu penses du coup aussi qu'il y a peut-être une personne qui est à ta charge et qui le sera beaucoup plus dans l'avenir, c'est une pression supplémentaire qui fait super peur. Je pense qu'il faut aussi aujourd'hui libérer la parole, parce que c'est vrai que dans mon entourage, je pense que je suis le seul dans cette configuration-là, parce que tous mes potes ont tous des parents qui sont vraiment parents. En gros, si mes potes un jour ils sont dans la merde, bah, les parents seront là pour prêter un peu d'argent, pour avoir un toit, etc. Moi, je sais que demain, si je n'ai pas de thunes, si j'ai un problème, quel qu'il soit, ma mère pourra m'héberger. Mais en gros, il faudra que je me débrouille. Après, je sais que j'aurai des potes ou mon mec pour m'aider, mais voilà, je sais que je ne suis pas dans le schéma normal, entre guillemets, qu'on nous montre dans toutes les fictions, films, séries, etc., dans ce que je peux voir autour de moi, mais je pense qu'on est quand même très nombreux à être dans ce cas-là, et il faut en parler, quoi.
Oui, enfin, on manque de représentation, alors qu'on en a sans doute autour de nous, si on va un peu plus loin dans les cercles, et puis aussi des gens qui n'en parlent pas par gêne, par pudeur. Moi, j'ai fait plusieurs épisodes autour des aidants en particulier. Donc, pour rappel, les chiffres, on est 11 millions d'aidants en France. Donc, c'est des aidants, c'est tout simplement des personnes qui aident un proche. Ça peut être les parents, mais ça peut être d'autres. Mais tu vois, tu disais qu'on devient le parent d'un parent. Il y a un peu de ça, et de se dire, bah, OK, maintenant, c'est dans ma vie et dans mon budget mensuel. Je sais que j'aurai un budget aidant et que du coup, ça va me limiter dans mes activités à moi d'adulte qui a envie de faire plein de choses, qui a envie de voyager, qui a envie de mettre de côté pour un projet immobilier, ou de je sais pas moi, d'assurer ma retraite si un jour j'en ai une, enfin tout ça,
ou qui fait la vie, quoi. Enfin, juste aussi parfois se dire, je fais un resto par-ci,
exactement,
je vais au ciné, enfin. Et justement, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'aujourd'hui on parle beaucoup des effets du patriarcat sur les femmes qui les rend précaires, mais je trouve qu'on parle pas du coup assez des femmes précarisées, et notamment du coup des personnes seniors qui étaient avant mères au foyer, par exemple. En fait, on se rend pas compte en fait de ce prix là qu'elles ont à payer, et je trouve ça scandaleux.
Bah là, on en a un peu plus parlé pendant la réforme des retraites, parce que bah, c'est les premières personnes qui vont être impactées. Et dans les personnes les plus précaires, bah, c'est en majorité des femmes, hein, très clairement. Ça peut être des personnes qui ont dû s'arrêter pour leurs enfants temporairement ou très longtemps, ou qui ont repris après à temps partiel, parce que justement, rien n'est fait dans cette société patriarcale pour pouvoir aider les femmes qui ont des enfants à reprendre une activité professionnelle, parce que les horaires ne vont pas, ça revient trop cher de les faire garder. Enfin, on n'est pas dans un pays où on n'est plus, parce que moi j'ai connu une époque, en tout cas dans certaines communes, où tout était fait pour ça, où les crèches, tout était gratuit, ça s'appelait le communisme, mairie communiste à Colombes, où tout était pris en charge, et donc les crèches étaient gratuites. Ça paraît con, hein, mais une crèche gratuite, du coup elle est accessible à tous les ménages, et c'est plus simple, et les horaires pouvaient s'adapter aussi. Donc je ne suis pas dans une utopie, je dis juste que, comme tu le précises, tout ça c'est politique. Si on avait des gens à la tête de ce pays qui se préoccupaient vraiment des femmes et du bien du pays en général, il y aurait un budget qui serait dégagé pour ça, et c'est pas complètement utopiste, ça se fait en Espagne, ça se fait dans d'autres pays. On n'est malheureusement pas dans une majorité présidentielle aujourd'hui qui s'intéresse beaucoup aux femmes, grande cause du quinquennat, et donc on en revient à les femmes dans la précarité pendant leur carrière, puis à la fin, quand elles sont à la retraite ou en pré-retraite, ça devient compliqué, au point que c'est pas grave. On se dit qu'elles ont une famille, qu'elles vont se débrouiller. Pour certaines, oui. Et puis d'autres, elles vont se retrouver en très grande précarité et seules. Et on va les retrouver malheureusement dans les rues avec toutes les violences que ça peut occasionner. Donc on a un peu dévié, mais c'est un sujet qui fait partie des sujets que tu abordes dans ton livre, ton rapport à ta maman et puis à cette précarité et à la pression que ça met sur toi. Qu'est-ce que tu as appris peut-être dans toutes tes recherches, quelque chose qui t'a surpris dans les sujets que tu as abordés, que tu ne pensais pas forcément aborder, puis qui est remonté?
C'est plus des souvenirs en fait, le fait dans le processus d'écriture, il y a pas mal de choses qui me sont revenues. Je les ai revécues aujourd'hui avec ma vie en tant que mec adulte, et beaucoup plus ouvert et déconstruit sur beaucoup de choses. Et c'est là, en fait, où ce que j'ai réappris, c'est, en fait, j'ai réappris la violence que j'avais pu vivre, des trucs totalement scandaleux à l'époque, notamment, tu vois, par rapport au site de rencontres homosexuelles, ou à tous les messages que j'ai pu lire, etc., quand j'étais jeune, sur ces sites de rencontres. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'était absolument scandaleux de décrire ça à un jeune, quoi. Je pense que c'est plus le rapport, justement, à cette domination masculine qui m'a fait violence en écrivant ce livre-là. J'ai compris beaucoup de choses dernièrement avec beaucoup de femmes féministes et grâce à leurs travaux. Et c'est vrai qu'en analysant tout ça, en décortiquant tout ça quand j'étais jeune, j'ai compris du coup qu'en fait, j'avais pu vivre certaines choses à certains degrés différents, sous la domination justement masculine. Que je parle beaucoup d'homosexualité dans le livre parce que bah, je suis homo et qu'aujourd'hui, être un homme, c'est ne pas être une femme ni être un PD. Donc forcément que l'homophobie est au cœur du livre et l'homosexualité aussi. Après, je parle d'homosexualité, mais je n'y parle pas non plus en fait les comportements misogynes et néfastes chez les hommes homosexuels parce que il y a beaucoup de travers aussi dans les manières d'être homosexuels. Hein.
Oui, il y a le sujet aussi de la folle ou la folophobie.
Folophobie, sérophobie, toutes les discriminations qui sont liées à l'âge, au corps, à la couleur de peau, etc. Et c'est vrai que les sites ou les applications de rencontres aujourd'hui, je ne sais pas si ça a beaucoup changé par rapport à ceux que je consultais quand j'étais plus jeune, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de discrimination chez les gays.
Oui, puis il y a une violence, je pense qu'elle est beaucoup remontée aussi quand il y a eu cette histoire avec Pierre Palmade qui faisait la une, et en fait on comprenait pourquoi, parce qu'encore une fois les médias ils trouvaient tous les ingrédients du fait divers, malheureusement très triste pour cette famille, mais aussi de dire, mais attends, c'est une star, et en plus il est gay, et puis il y avait plusieurs hommes, et puis il y avait de la drogue, du chemsex, on n'y comprend pas grand chose, donc on y met énormément de... Alors c'est très bien qu'il y ait eu un peu plus de prévention ensuite sur le chemsex, alors que ça fait des années que beaucoup de milieux militants alertent sur le sujet parce qu'il y a vraiment des dangers et des personnes qui en meurent ou qui ont des dommages très importants. Et après, il y a ce sujet de « mais en fait, ce monde-là est quand même assez malsain » et on est reparti sur des sujets qui étaient clairement homophobes sur tous les plateaux de télé. Sous prétexte qu'on parle d'une star, on peut être extrêmement agressif et homophobe parce que vous comprenez, c'est un milieu... Le traitement de cette affaire, de toute façon, a été très, très compliqué.
Je ne sais pas si, en tout cas, il y a vraiment eu une vraie éducation, une pédagogie en fait sur le chemsex auprès du grand public. Mmh. En tout cas, moi, j'ai pas vu des bons médias faire des bonnes analyses ou vraiment donner la parole à des personnes qui s'y connaissaient vraiment sur le sujet. Dans tous les cas, je trouve qu'il y avait aussi une énorme hypocrisie par rapport au sexe sous drogue ou à la conduite sous drogue ou avec un gros taux d'alcool. Parce que aujourd'hui, quand même, tous ces problèmes au volant, enfin tous ces problèmes meurtriers. Ils sont là, et qu'on soit connu ou pas, en fait, ils sont là, ils sont majoritairement causés par des hommes, et c'est vrai que, encore une fois, par rapport à la domination masculine, c'est un thème inconnu, Pierre Palmade était gay, etc., mais je trouve qu'on est passé à côté de beaucoup de choses sur la domination masculine, et le comportement viril qu'on loue à chaque fois aux hommes, et combien d'hommes aujourd'hui tuent des personnes sur les routes. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte, en fait, de la question du genre dans tous les meurtres qui arrivent sur les routes. Il y a beaucoup d'homophobie, et c'est une histoire qui est horrible. Mec connu plus homosexualité, ça a fait un carnage, comme sexe aussi. Mais la vraie question était quand même aujourd'hui, combien de mecs sous emprise de stupéfiants ou d'alcool prennent le volant? Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Qui tue ou pas, c'est un problème majeur, mais pour le coup, en fait, il se passe rien, quoi. Et c'est catastrophique, et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à une soirée où justement, j'avais plein de potes mecs qui avouaient que oui, en fait, plein de fois, quand ils étaient plus jeunes, en fait, ils avaient pris le volant avec beaucoup d'alcool dans le sang, quoi. Et tu te dis, mais...
Mais pourquoi ?
C'est récurrent partout, en fait, mais quand est-ce qu'on peut et qu'on va arrêter ça ? Et comme toi, hein, je suis team sans permis de conduire, donc c'est pas quelque chose que je vais vivre, en tout cas, mais je ne comprends pas.
Et oui, donc les statistiques, elles sont très claires, hein. Comme tu disais, c'est majoritairement des hommes qui sont à l'origine de ces accidents, donc ça veut dire qu'il y a un sujet de virilité mal placée, de ce truc de la puissance avec le véhicule, ça peut être le cas aussi en moto, où c'est encore plus dangereux.
Surtout aussi... T'as l'expression « conduire comme une femme », et au final, les femmes aujourd'hui, par rapport aux statistiques tribunaires, les femmes, elles causent beaucoup plus d'accrochages, donc des accidents très très légers, hein, c'est que des accros, alors que du coup, les hommes ont vraiment beaucoup plus en nombre des accidents qui sont mortels, et en fait, aujourd'hui, on va te dire « ah, tu conduis comme une femme
ouais. ».
En fait, donc, vaut mieux se péter un phare que tuer quelqu'un, tu vois, donc c'est une misogynie intégrée qu'on a dans notre vocabulaire, mais qui est totalement débile, quoi, dans l'expression qu'on emploie tous les jours.
En plus, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, moi je sais que ça fait partie des armes de séduction chez un homme qui sache conduire ou pas. Ça, c'est, je me dirais pas, parce que ça, j'ai déjà vu ça, qu'un homme qui conduit pas, c'est pas viril. On se pose des questions, bah non, en fait, peut-être qu'il a pas passé son permis pour plein de raisons et c'est ok. Mais pour ceux qui conduisent et qui conduisent bien, c'est-à-dire de manière souple, qui sont pas en train de faire des accélérations pour rien. Moi, je sais que les rares que j'ai rencontrés où j'ai pu entrer dans leur voiture, être accompagné à droite à gauche et voir que le mec, il a une souplesse, il est bien, il n'est pas en train de klaxonner tout le temps, il n'est pas en train d'insulter, il prend le temps et il conduit bien, donc il conduit comme une fille, Et bien ça, mais c'est bon quoi. La moitié du boulot de séduction est faite, donc conduisez prudemment. Et donc ça peut être un levier de séduction pour certaines femmes en tout cas.
D'accord.
C'est noté. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter Après j'ai vu qu'il y avait plein de références que tu cites, donc on pourra les indiquer. Mais si tu as peut-être un coup de cœur là en tête d'une œuvre ou d'un artiste ou une artiste.
Coup de cœur pour le livre d'Ovidie, enfin tous les très beaux cafés, j'aime beaucoup. Dernièrement, j'ai découvert une artiste, une chanteuse qui s'appelle Kalika, K-A-L-I-K-A, qui a fait un duo avec Yael qui s'appelle Les Glaçons. Kalika, je suis devenu fan depuis quelques mois et je sais qu'elle sort son album cette semaine, donc j'ai hâte de l'écouter parce que elle parle de beaucoup de choses dans ses textes. Elle parle beaucoup du coup de domination masculine. En fait, elle a des textes qui sont très crus, un peu cul, mais très drôle. Et on pourrait croire que c'est naïf, mais c'est très accrocheur et très fort. Donc j'aime beaucoup Kalika et j'invite tout le monde à l'écouter parce que franchement, je trouve que ce qu'elle fait, c'est canon. Et en ce moment, j'ai un gros crush sur le podcast Destination Vieillistan.
Oui, je l'ai vu passer, ouais.
Qui est vraiment trop bien, podcast sur la RTS de Charlotte Gonzalez et Aurélie Cuta, qui avait fait Voyage au Bounistan. Et là, le Vieillistan, c'est un podcast justement sur le vieillir queer. C'est hyper touchant, en fait. Il n'y a pas un épisode que j'ai écouté sans verser une petite larme parce que c'est hyper fort. Donc, j'invite aussi tout le monde à écouter ce super podcast. C'est très, très beau.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Thomas.
Merci à toi.
Vous pouvez retrouver du coup cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'hésitez pas à mettre des notes, des étoiles partout où vous pouvez. Ça aide vraiment et c'est comme ça que encore ce mois-ci, Single Jungle est remonté dans le top 200 Apple dans la rubrique culture et société. Et enfin, parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure et voilà, on est bien obligé, donc j'ai lancé mon Tipeee. Donc n'hésitez pas à participer, même si c'est 1 euro une fois, je sais pas moi, par semestre, et ben vraiment ça aide pour être dans la transparence à payer le montage et la prise de son de ce podcast et aussi les frais d'hébergement de ce podcast. Donc merci de votre participation et à très bientôt.